Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous. L'inflation qui touche les carburants et par ricochet l'ensemble des biens de consommation, plus 10% dans la zone euro, et les conflits sociaux qui en découlent, de quoi provoquer l'hiver du mécontentement en Europe souhaité par Vladimir Poutine. En Espagne, en Andalousie, une région déjà socialement fragile avec un taux de chômage de 23%, le panier de courses est déjà 11,6% plus cher que l'année dernière. Et même les banques alimentaires qui viennent en aide aux plus démunis ont bien du mal à s'approvisionner. C'est le reportage à Cadiz de Diane Cambon.
Maria est une des 40 bénévoles qui aident à répartir et distribuer les aliments de la banque alimentaire de Cadiz, une région du sud-ouest de l'Andalousie où le chômage atteint des records. Or, depuis ces derniers mois, les dons ont baissé de 20 à 30%, ce qui oblige Maria à recourir à d'autres donateurs.
Nous allons voir les boutiques et les marchés qui sont de bonnes sources pour se procurer des aliments. Mais on essaye surtout de ne pas faire savoir que nous avons des problèmes d'approvisionnement, car ils ont déjà leurs propres problèmes à gérer.
Environ 30 000 foyers dépendent de la banque alimentaire pour se nourrir dans cette région d'Espagne où ni la pêche ni la sidérurgie navale ne fournissent de travail et où le tourisme, malgré une année record de fréquentation, n'a pas donné les fruits escomptés, comme le confie Rosé, qui propose des promenades en calèche devant la cathédrale.
Les touristes viennent beaucoup par ici, mais ils sont comme tout le monde, ils veulent dépenser le moins possible. On l'a bien vu cet été, tout le monde fait des économies. Personne ne sait de quoi vont être faits les prochains mois. Jusqu'où vont monter les prix? On n'en a aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des prix abusifs. Ils nous disent que c'est à cause de la crise internationale. On nous parle tout le temps de ça. Mais la vérité, c'est que c'est la hausse des tarifs qui provoque la crise.
L'inflation est devenue l'une des principales causes d'inquiétude des Espagnols et elle est à l'origine de cette baisse des denrées dans les banques alimentaires, selon Paco, responsable de l'arrivée des produits.
Tout a augmenté avec l'inflation. Les œufs, le poulet, la viande, les pâtes, tous les aliments de première nécessité. Du coup, les dons sont moins nombreux et les entreprises qui doivent réduire leurs coûts de production sont moins généreuses aussi.
Des dons qui diminuent alors que la demande risque d'être plus importante. Les files d'attente de la faim ne cessent de s'allonger devant les dispensaires caritatifs. Sur une petite place du centre de Cadix, loin des touristes, chaque jour, ils sont presque 500 à demander un panier de provisions au centre de Caritas, une ONG catholique qui se fournit à la banque alimentaire. Dans la queue, Ramon, âgé de 35 ans, doit recourir à cette aide car il n'arrive plus à boucler les fins de mois.
Quand je travaille à l'usine, je gagne 1050 euros par mois, mais je dois payer un loyer de 750 euros mensuels. Quand on enlève l'abonnement des transports en commun, les factures d'énergie qui n'arrêtent pas d'augmenter et les frais de l'école des filles, il ne reste plus rien. C'est aussi simple que ça. Nous avons essayé de recourir aux aides sociales du gouvernement comme le salaire minimum vital. Mais il y a toujours un obstacle administratif.
Alba travaille comme bénévole. Elle est chargée d'enregistrer les nouveaux venus, toujours plus nombreux.
Durant la pandémie, on avait déjà assisté à une augmentation considérable des demandes. Mais aujourd'hui, avec la hausse des prix, la pauvreté est aussi en hausse, car on voit beaucoup de gens qui ont un travail et qui, malgré tout, n'arrivent pas à faire face aux frais et ont besoin d'aide car leur salaire n'est plus suffisant.
Cet hiver, les banques alimentaires de tout le pays calculent qu'il pourrait y avoir entre 20 et 30% de demandeurs en plus. Paco s'occupe de la réception de la nourriture et ne cache pas son inquiétude.
Cet hiver, on sait déjà qu'il y aura plus de monde, à cause notamment du prix de l'électricité. Mais on sait aussi que les aides vont baisser. Nous avons reçu un document de l'administration pour nous avertir qu'il y aurait moins de subventions et d'aliments.
Pour garantir l'approvisionnement en continu de nourriture et en assurer sa distribution, les appels aux dons se multiplient et certaines grandes enseignes espagnoles ont accepté de participer à des campagnes pour faire face à un hiver qui s'annonce compliqué pour les ménages modestes.
Il aura fallu une dizaine d'années de négociations à Bruxelles, mais ça y est, le Parlement européen a donné son feu vert au chargeur unique pour tous les téléphones, tablettes et autres consoles. Les géants comme Apple vont devoir se faire une raison pour garder leurs clients européens. Une vraie bonne nouvelle pour les consommateurs et la planète, Clémence Pénard.
Fini de jongler avec une dizaine de chargeurs différents. D'ici 2 ans, smartphones, écouteurs sans fil ou encore GPS, tous ces appareils électroniques vendus dans l'Union européenne devront avoir le même chargeur. Concrètement, ils devront tous être dotés d'une prise de recharge au standard USB-C, quel que soit donc leur fabricant. Alors oui, cette directive va nous faciliter la vie et ce déploiement d'un chargeur unique, ça veut dire aussi au moins 200 millions d'euros d'économies par an pour les consommateurs européens. Et puis, c'est bien sûr une bonne nouvelle écologique. Les chargeurs jetés représentent actuellement environ 11 000 tonnes de déchets électroniques par an. Mais c'est la toute petite partie visible de l'iceberg pour ce qui est de l'impact environnemental du numérique, comme le dit l'eurodéputé écologiste français David Cormann, évoquant l'obsolescence programmée par exemple. Il y a encore du chemin à faire donc, mais cette législation reste tout de même pionnière dans le monde, au grand dam évidemment d'Apple qui, dès le mois de juin, s'opposait fortement à ce texte. Officiellement pour ne pas brider l'innovation, mais surtout pour garder son propre système. Or, que cela leur plaise ou non, les fabricants devront se plier à la nouvelle norme. La marque à la pomme et les autres ne peuvent tout simplement pas se priver d'un marché européen de 450 millions de consommateurs avec un haut pouvoir d'achat.
Merci Clémence Pénard. Et chaque semaine, en partenariat avec Enter, vous nous racontez une bonne nouvelle européenne à retrouver sur les réseaux sociaux. Le recours au charbon pour pallier le manque de gaz russe. Les Balkans ne font pas exception. À Tuzla, en Bosnie, les ressources en charbon sont immenses. Une vaste centrale thermoélectrique a été construite au début des années 60, à l'époque de la Yougoslavie de Tito, et elle est toujours en activité. Aujourd'hui, la Chine veut investir 1 milliard d'euros dans une nouvelle extension de cette centrale, malgré les dommages pour l'environnement et la santé des habitants qui s'est déjà beaucoup dégradé. C'est le reportage de Simon Rico.
Depuis le village de Divkovici, on voit bien les grandes colonnes de fumée s'échapper des cheminées de la centrale à charbon voisine. La région paye encore un lourd tribut sanitaire à ce choix énergétique. Ici, à l'entrée de Tuzla, moins d'une maison sur deux est aujourd'hui habitée. Et si l'on se fie aux inscriptions sur les tombes du petit cimetière, rares sont ceux qui dépassent la soixantaine. Goran Stoyak est le porte-parole de la communauté locale.
Quand l'hiver arrive, les problèmes sont encore pires. On est envahi par le brouillard qui nous mord les yeux, les bronches et les poumons. Les yeux piquent. Tout le monde ici a des problèmes respiratoires et aux yeux. On sent parfaitement la poussière qui pénètre dans nos poumons. Ici, tout le monde doit avoir son inhalateur.
Izet Bašić habite quelques rues plus loin. Très malade, ce quinquagénaire fait partie de ceux qui portent dans leur chair les conséquences de la terrible pollution causée par le charbon.
C'est une catastrophe, j'en peux plus. Je ne sais pas encore combien de temps je vais tenir. Cela fait 20 ans que je n'ai qu'un seul poumon qui fonctionne. Que puis-je faire? Je ris, je chante, c'est tout ce qu'il me reste.
Chaque hiver, Tuzla bat des records de pollution. La ville figure même régulièrement en tête du classement mondial des villes avec le plus haut taux de particules fines dans l'air. Mais dans cette région économiquement sinistrée, pas question de renoncer au charbon, dont l'exploitation fait vivre des dizaines de milliers de foyers grâce aux mines et à la centrale thermoélectrique. Ce secteur est aussi particulièrement précieux pour les partis politiques corrompus, souligne l'écologiste Denis Žižko.
Le fait est que lors des privatisations qui ont suivi la guerre des années 80, 90, les partis nationalistes dominants ont mis la main sur deux secteurs, l'énergie et les télécommunications, parce qu'il s'agit de monopoles où il y a toujours de l'argent frais disponible. Et pour couronner le tout, ces partis y ont placé leurs partisans et leurs proches. De fait, cela constitue pour eux une armée d'électeurs et cela bloque toute transition.
Malgré les multiples pressions, Denis Jijko tente depuis une quinzaine d'années d'alerter sur les risques que fait peser le tout charbon à Tuzla, parce qu'au-delà de la pollution atmosphérique, les conséquences de cette énergie fossile se font aussi sentir sur les sols, les eaux souterraines et donc sur toute la chaîne alimentaire. En 2020, le professeur Abdel Djozic a coordonné une étude alarmante sur la question et il s'agace de ne rien voir avancer.
J'ai bien essayé de contacter la direction de la centrale thermoélectrique pour leur proposer des projets concrets afin de réduire les déchets et les risques, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Vu l'ampleur de la pollution, il est pourtant urgent d'agir avant que ne survienne un grave accident.
Selon l'OMS, la Bosnie-Herzégovine arrive au cinquième rang mondial de la liste des pays où la pollution de l'air tue le plus. À Tuzla, les maladies chroniques affectant les voies respiratoires, asthme ou bronchite, et les nombreuses allergies sont devenus le quotidien de la plupart des habitants. Les centres de soins notent aussi une hausse des pathologies plus graves, cancers et complications cardiovasculaires. Maïda Mulic est l'ancienne directrice de l'Institut de santé publique.
La pollution est ici un grave problème qui provoque de nombreuses pathologies. Ça concerne tout le monde et il faudrait prendre toutes les mesures possibles en accord avec les standards européens et les recommandations de l'OMS. Je ne peux pas dire que les autorités locales ne s'inquiètent pas de la pollution, mais ce n'est pas une priorité suffisante dans leur plan d'action de développement de la communauté locale.
Lors des élections générales du 2 octobre, l'écologie a encore été la grande absente de la campagne et des programmes. Surtout en pleine guerre en Ukraine, le charbon est revenu sur le devant de la scène et les critiques de l'Union européenne sur le retard de la transition verte de la Bosnie-Herzégovine se sont soudain tues. Voilà qui pourrait profiter à la relance du projet de nouveau bloc dans la centrale de Tuzla, financé par la Chine et fièrement présenté dans le pays comme le plus grand investissement étranger depuis la fin de la guerre.
Un reportage réalisé par Simon Rico avec le soutien du journalismfund.eu. Et en Italie, changement complet de stratégie. Le gouvernement prévoit une remise en service à plein régime de ses centrales à charbon, alors que leur fermeture était prévue d'ici 2025. La défense de l'environnement est donc également mise entre parenthèses. Les explications à Rome de Blandine Hugonnet.
La transition écologique va devoir attendre en Italie. Face à la crainte de manquer de lumière et de chauffage cet hiver, le gouvernement fait marche arrière sur les énergies propres. Rome a officialisé en septembre une maximisation de la production de ses centrales à charbon pendant 2 ans. Autrement dit, une reprise à plein régime de sites hautement polluants et promis à la fermeture par souci environnemental. Au total, l'Italie possède 6 centrales encore actives qui transforment le combustible noir en électricité. Leurs grosses cheminées auraient dû cesser de cracher de la fumée en 2025, mais le projet de fermeture est désormais suspendu. De quoi irriter les défenseurs de l'environnement, alors que le gouvernement a mis des mois pour approuver la création de 8 parcs éoliens et photovoltaïques. L'Italie sait être rapide pour relancer le charbon. Pourquoi elle ne l'est pas pour les énergies renouvelables, regrette l'organisation Legambiente. Il s'agit d'une situation d'urgence, répond le ministère de l'écologie, qui compte sur le charbon pour éviter l'utilisation du gaz, et du gaz russe surtout, dont l'Italie dépendait à plus de 40% avant le début de la guerre en Ukraine. Il faut dire que Moscou a donné des sueurs froides aux Italiens en coupant le robinet pendant plusieurs jours au mois d'octobre, faisant planer la crainte de pénurie cet hiver. Car même si l'Italie a aujourd'hui divisé par 2 ses importations russes, les ressources italiennes sont insuffisantes. Redémarrer les centrales est donc nécessaire, assure le ministre de l'écologie. La relance du charbon doit permettre d'économiser 1,8 milliard de mètres cubes de gaz, soit près d'un quart du total des économies de consommation d'énergie prévues d'ici le printemps. l'an prochain en Italie.
Nikim jedynie śmieciem dla świata. 100 tysięcy ludzi uśnie na ulicy, utopione w morzu rezygnacji życiorysy. Niewielu ma odwagę schylić się i być człowiekiem, słuchać, nie brzydzić się człowiekiem. Śmieci, śmierdzący szlam dla was, ja wolę dworzec niż salon, z tym śmieciem chcę rozmawiać.
Quel chauffage pour cet hiver ? La question inquiète tous les Polonais. Et un mot a fait son apparition dans l'actualité, les smieci, les détritus en polonais. Doit-on faire feu de tout bois au mépris de la qualité de l'air ? C'est curieusement l'avis du président du parti au pouvoir, le PiS. Mais tous les Polonais ne sont pas d'accord. Les smieci, c'est la chronique en un mot aujourd'hui de Martin Chabal à Varsovie.
Certains Polonais n'hésitent plus entre la poubelle jaune, la poubelle verte ou la poubelle noire pour leurs détritus. Ils finissent parfois directement dans le poêle domestique pour chauffer la maison. C'est en tout cas ce qu'ont observé certaines municipalités qui récoltent de moins en moins de déchets depuis que les températures descendent. Piotr Siergiej est responsable de l'initiative citoyenne d'alerte sur le smog polonais. Il se bat pour améliorer la qualité de l'air. Il a pu observer ce phénomène près de chez lui.
Dans mon quartier de Varsovie, tous les deux mois, les gens déposent des détritus dans la rue. Des meubles, des pneus, des gros déchets. Eh bien, on s'est rendu compte que certains de ces détritus avaient disparu pendant la nuit. Et ça arrive dans d'autres villes. Ces déchets sont collectés parce que beaucoup de gens n'ont pas assez de charbon dans leur foyer et c'est probablement pour les brûler.
Avec l'hiver qui arrive, la pénurie de charbon en Pologne et la hausse des prix de l'énergie, certains n'ont d'autre choix que de brûler ces ordures. Et c'est 60% des Polonais qui n'auront sûrement pas assez de charbon pour se chauffer cet hiver. Alors le mot détritus, smieci en polonais, prend un autre sens pour cette période. Il devient un carburant, au même titre que le gaz ou le charbon. Et c'est même encouragé par le président du parti Droit et Justice au pouvoir.
Vous devez brûler tout ce que vous avez, bien sûr. Pas des pneus ou des choses comme ça. La Pologne a simplement besoin d'être réchauffée. Sauf pour les personnes souffrant de certaines maladies pulmonaires, car dans ce cas, c'est vraiment dangereux.
Mais le sourire qu'affiche le président du PiS, Jarosław Kaczyński, lors de cette intervention, ne passe pas auprès d'une partie de la population. Parce que forcément, brûler des déchets, notamment plastiques, a un impact sur l'environnement et la santé. Pour Nicolas, jeune Varsovien de 24 ans, donner ce nouveau sens au mot détritus est irresponsable.
Je pense que Kaczyński a fait son temps. Il arrive à la fin de sa vie et n'a rien à faire du futur des Polonais, des jeunes et de tout le monde. Nous, on va vivre avec tous les problèmes créés par ce genre de comportement.
Parce que si les détritus deviennent des combustibles, comme le sous-entend le gouvernement, la qualité de l'air en Pologne va fortement se dégrader. Brûler du plastique ou des anciens meubles va rajouter des éléments toxiques dans l'atmosphère. Piotr Siergiej affirme que tout le monde pourra s'en rendre compte dès cet hiver.
Brûler ces détritus n'est pas le problème principal de la pollution de l'air. Dans mon quartier, il doit y avoir environ 10 maisons qui ont un poêle où ils peuvent brûler des ordures sur 200 maisons. Mais c'est assez pour dégrader la qualité de l'air. Vous allez le sentir. Si vous respirez l'air polonais en hiver, vous pouvez dire « ça, c'est du bois, ça, c'est du charbon ». Et quand vous brûlez des détritus, vous le sentez tout de suite. C'est une odeur chimique vraiment particulière.
Il s'attend à ce que le gouvernement ait un plan clair pour lutter contre la crise énergétique. Il aimerait que les autorités pensent à rénover les immeubles et les maisons. Les isoler serait plus efficace sur le long terme que de prier pour que les importations de charbon arrivent. Et la majorité des Polonais n'a pas forcément les moyens pour réaliser ces travaux. En attendant, les détritus, smieci en polonais, sont devenus, aux côtés du charbon et de l'isolation des maisons, un des enjeux énergétiques de cet hiver.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.